Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlerons aussi, j'insiste sur le aussi, de réforme, de la réforme de l'islam, de la refondation de la pensée théologique islamique pour certains, de la refonte des idées qui sous-tendent la tradition religieuse islamique. Nous en avons eu à aborder ce sujet sur ces antennes, mais aujourd'hui, je pense sans exagération que l'événement est majeur, parce que je reçois l'intellectuel et penseur Nourdin Boukrou. Bonjour.
Bonjour, Ghalib.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Je rappelle tout simplement que vous êtes disciple aussi du penseur algérien Malek Benhabi, auquel on a consacré deux émissions. Nous aurons tout au long de cette émission à aborder cette question cruciale, névralgique. Avant même de commencer l'émission, nous disions qu'elle est fondamentale pour le devenir du monde. Et pour reprendre la question shakespearienne, la question est d'être ou de ne pas être, trois points de suspension, musulman à la fin de ce siècle. Dans un livre entretien avec Saïd Branin, paru aux éditions Entre Lacs, en grand titre, la question est « Islam, la dernière chance ». Ce n'est même pas une question, c'est même une affirmation. Donc pour vous, Nourdin Boukrou, nous vivons les derniers soubresauts d'un islam éculé, dépassé, qu'il faut rénover et réformer.
Oui, je pense que la souffrance de l'islam est visible aujourd'hui. Elle est observée, elle est vécue. Parfois même, cette souffrance se traduit en sang répandu sur la voie publique, dans divers pays où l'islam est chez lui et dans des pays où existent des communautés musulmanes importantes. L'islam souffre de ce qu'en ont fait les musulmans. L'islam a été défini il y a bien longtemps par des hommes comme vous, comme moi, comme les intellectuels, comme les savants de contemporains, ou à venir, ou à venir. Une question aussi importante que celle afférente à la signification de l'islam, que devait être à l'origine l'islam? La réponse doit être cherchée dans le Coran. Ce travail de tentative de définition a été accompli par les premiers musulmans, les contemporains du prophète, et surtout après la mort du prophète, parce que l'essentiel de l'islam historique est l'œuvre des hommes, pas du Coran. L'essentiel s'est fait un siècle et demi, deux siècles, trois siècles après la mort du prophète. Si on veut résumer les choses, on pourrait dire que l'islam est plus défini, disons, par l'œuvre des hommes que par les édits du Coran, parce que pose le Coran lui-même. Donc, ayant à reconnaître cela, que l'islam historique est l'œuvre des hommes. Des hommes venus ultérieurement, en d'autres siècles, qui viendront dans plusieurs millénaires. Nous sommes voués, l'homme est voué à habiter encore la terre pendant peut-être des milliards d'années. Peut-être, en théorie. Donc, un jour ou l'autre, il faudra que ce soit de notre temps aujourd'hui, comme d'autres ont essayé de le faire avant nous, au XIXe siècle, les Nahdawis, les penseurs de la Nahda, ceux qui, tout au long du XXe siècle, ont essayé, dans divers pays musulmans, de réactualiser, d'actualiser l'islam, de l'actualiser, de l'adapter à son temps. Bon, ces gens-là, les Nahdawis, les premiers penseurs de la réforme, ont essayé de tenir compte des évolutions récentes, des évolutions, des transformations qu'ils vivaient, contemporaines, qui constituaient leur cadre de vie. Ils se sont heurtés à une opposition selon laquelle l'islam a été défini une fois pour toutes il y a bien longtemps. Les noms qui sont associés à cette définition de l'islam, c'est bien sûr les fondateurs des quatre écoles, c'est bien sûr les deux auteurs des grands sahih, Bukhari et Muslim.
Sahih étant un authentique.
Voilà, voilà, exactement. Donc aujourd'hui, je me dis que ces gens-là ont pu avoir la liberté de penser l'islam, de le conceptualiser, de le définir. Pourquoi d'autres venus après eux n'auraient pas ce droit intellectuel ?
Ils furent des hommes et nous sommes des hommes, disait l'un d'eux, c'est le maître éponyme de l'école, la première école juridique, l'école hanafite, Abu Hanifa. Donc ce qui a été fait par des hommes peut être défait par d'autres hommes et refait par des hommes et des femmes, puisqu'il ne faut pas les exclure. Nordine Bouclouach, je vous ai écouté vraiment avec beaucoup d'intérêt. J'aurais une toute première réaction. La première, c'est qu'à juste raison, il y a cette distinction entre le fait coranique dans le moment mohammedien et le fait islamique qui est une longue et longue construction humaine. Et l'islam, de ce point de vue-là, est une construction humaine. Et la seconde réflexion sous forme de question, c'est vrai qu'à plusieurs raisons, nous avons évoqué le vocable islam, mais selon la vieille boutade désormais classique, Monsieur Islam n'existe pas. L'islam, c'est ce qu'en font les musulmans eux-mêmes. Donc c'est plus un fait islamique, une chose islamique, si je puis dire, qu'un islam dont on ne sait plus à quoi il renvoie depuis Jakarta jusqu'au Suriname et puis cet arc de cercle qui va malheureusement du nord nigérien jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans que nous nous appesantissions dans cette région du monde qui a vu naître une monstruosité religieuse et idéologique. Nordine Bouclouach, je vous suggère ce triptyque, si vous en êtes d'accord. Vous parlez de réforme, vous avez évoqué la Nahda, renaissance, renouveau, résurrection, réveil. D'abord, pourquoi ça n'a pas pris ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Quel est l'élan de foi et d'espérance qui finalement a été stoppé ? Et puisque vous parlez donc de réforme, pourquoi doit-on réformer tout simplement ?
Réformer d'abord signifie renouveler, signifie améliorer. Ça n'est pas rompre, casser, briser, renier. Réformer, c'est toujours tendre au meilleur, tendre au bien et peut-être même au meilleur. Donc, partant de cela, il faut peut-être aussi rappeler que la notion de réforme, qui se traduit en arabe par islah, appartient à la terminologie intellectuelle islamique depuis bien longtemps. On peut même la faire remonter au prophète lui-même, puisqu'il y a un hadith du prophète qui consacre la nécessité de réformer l'islam à chaque nouvelle époque. Le hadith en question est connu, il se trouve dans les recueils de Bukhari et de Muslim. Tout le monde connaît ce hadith et le prononce, mais en lui donnant un contenu autre que celui qui était peut-être celui du prophète. Personne ne peut rentrer dans les pensées du prophète et prétendre. Nous ne faisons que des lectures de l'héritage de ce qu'a dit le prophète, avec toute la relativité qui entoure la recension de ce qu'il a dit.
Parce qu'on ne peut pas avoir cette approche, pardonnez-moi le terme, aporétique en disant que les recueils sont à revoir dans leur totalité au 95% et s'y référer quand on exhibe un propos en hadith qui va dans le sens que nous souhaitons. C'est donc la rigueur intellectuelle et l'exigence de rectitude morale et drastique au niveau académique, c'est de dire ces recueils-là, nous les traitons, si je puis dire, avec circonspection, mais ce hadith existe néanmoins.
Voilà. C'est pour dire parce que, les gens s'interrogent un peu. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, enfin, le musulman qui tient le droit de réfléchir sur l'islam du Coran lui-même, doit reprendre les faits qui ont constitué l'histoire de l'islam, doit reprendre le contenu du Coran et s'accorder et exercer le droit qui lui a été reconnu, concédé, par le Coran et par le prophète. Plus tard, ultérieurement, la classe, le savoir religieux, pour ne pas dire les oulamas, le savoir religieux a décidé que cette fonction ne devait plus être exercée par quiconque en dehors du salaf, en dehors des promis. Ils ont considéré que la vérité avait été définie une fois pour toutes par une génération d'hommes et que les autres n'avaient ni la compétence ni la légitimité pour... C'est de cela, la réforme doit casser d'abord ce principe-là, ce principe qui était un principe politique. Et on a élargi le périmètre du sacré, qui était limité au Coran, on l'a élargi à la personne du prophète, alors que le prophète lui-même ne se prévalait pas de cette qualité. Et puis, par ceux qui ont vécu les temps prophétiques, puis ceux qui ont suivi les trois générations issues de la première. Donc, quelque part, c'est caricatural tout ça. La pensée humaine, la pensée islamique doit reprendre en main tous les éléments conceptuels qu'elle trouve dans le Coran, dans le vécu et dans le discours prophétique, les éléments nécessaires à une réactualisation de l'islam. Donc, je voulais dire que ce hadith-là, qui dit que Dieu enverra au début de chaque nouvelle ère, bon, le terme exact, c'est au début de chaque siècle. Mais siècle, moi, je pense qu'il s'agit de le traduire en ère plutôt qu'en temps, en quantité de temps.
Et certains disent que c'est l'équivalent d'une génération, mais c'est un débat sémantique entre philologues.
Voilà. Mais à mon avis, ce sont des strates, des époques intellectuelles. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons depuis, l'humanité vit depuis une cinquantaine d'années, ce qu'elle n'a jamais connu depuis le néolithique. Les découvertes grâce auxquelles nous vivons aujourd'hui, si elle venait à disparaître demain, imaginez, l'homme ne connaît Internet que depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Peut-il, l'être humain, aujourd'hui, se passer d'Internet? Impossible. Imaginez une panne d'électricité qui durerait une semaine ou plus, qui priverait l'homme du smartphone, de l'Internet, etc., de l'informatique. Que deviendrait l'humanité, le monde moderne? Il s'écroulerait. On aurait le sentiment d'avoir été, je ne sais pas, ramené à l'époque hantée néolithique. Donc, c'est pour montrer un peu l'énormité de cette attitude intellectuelle des musulmans qui continuent de penser que l'islam, il a été phagocyté, il a été défini, camisolé une fois pour toutes, et que les musulmans à venir, postérieurs à l'époque venus après les trois premières générations, ne devaient que se plier à ces définitions. Ça, c'est une monstruosité mentale. On n'est plus dans l'intellect, mais dans le mental. Restreindre la pensée à ce point-là, alors qu'il existe dans le référent islamique lui-même cette liberté-là qui a été que certains ont à l'apparition de l'islam, le premier courant philosophique, les premières expressions de la pensée islamique étaient celles formulées par les Mu'tazila. L'islam a naturellement généré la rationalité et une pensée critique. Ce n'est qu'après les Mu'tazila.
Pardon, je dis simplement aux auditeurs que les Mu'tazila, en arabe, les Mu'tazilites, c'est un courant de pensée de ceux qui, étymologiquement, sont considérés comme ceux qui se sont isolés, retirés, mis à l'écart, mais simplement pour fonder une nouvelle école de pensée rationaliste.
Absolument. Merci beaucoup. Justement, monsieur Alab, mais cette génération de premiers musulmans qui se sont isolés, ils sont isolés de quoi ? Des conflits politiques qui avaient surgi très tôt et qu'avait annoncé le prophète. Pourquoi le prophète... Bon, j'essayais tout à l'heure de me camper un peu, de me caler à ce hadith où il disait qu'à chaque nouvelle époque, l'islam doit être, disons, reformulé. Alors que le mot, il est plus puissant en arabe. « Man yujad didul umma dinaha » Renouveler la religion. Moi, je ne parle que de renouveler la conceptologie islamique. La vision du monde de l'islam, pas le dogme islamique. Il n'est pas question, ce n'est pas le dogme qui appelle à être réformé, on n'en a pas besoin. Les cinq piliers de l'islam, que quelqu'un aujourd'hui jeûne, qu'il fasse le pèlerinage, etc., en quoi il pourrait gêner quelqu'un avec sa prière? Absolument pas. Les problèmes qui se posent, c'est la deuxième composante de toute religion. Toute religion se compose de deux compartiments. Le compartiment dogme, la dogmatique, et le compartiment, la vision du monde ici de cette dogmatique. Lorsque cette vision du monde n'est pas actualisée de temps à autre, elle finit par dépérir. C'est ce qu'il est advenu de la mythologie grecque, de beaucoup de religions dépassées, et même des grandes religions monothéistes qui aujourd'hui sont écartées. Elles sont écartées de la vie sociale, elles sont écartées de l'espace public. Quant aux Mu'tazila, ce sont ceux qui n'ont pas voulu prendre position durant les batailles entre Ali et Muawiya, etc., pour la prise du pouvoir. Ces gens-là, cette première génération de musulmans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ulama, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas les grandes écoles juridiques, il n'y avait rien. Le musulman était un être naturel comme l'était le prophète. Il pensait les choses, il était critique. Omar, les plus proches compagnons du prophète, se comportaient à l'égard du Coran comme on n'oserait pas le faire de nos jours. Donc voilà ce que j'entends par cette idée de réforme. Bon, il y a peut-être, M. Rale, vous avez visé quelque chose. Pourquoi est-ce que le courant Nahdawi a échoué? Il a échoué. Comme a échoué le courant Mu'tazilite? Le courant Mu'tazilite a précédé l'avènement de la pensée rigoriste des quatre écoles et du camisolage. Il y avait la liberté. L'islam a institué d'abord la liberté de vivre, de penser, on n'écrivait pas, mais on s'exprimait, etc. Les ulamas sont venus pour corseter, pour catégoriser, pour sacraliser outre mesure au-delà du nécessaire. Et voilà. Depuis donc, il s'en est suivi à partir du 11e siècle, du 12e siècle, 13e siècle, passé l'époque, le dernier siècle où il y avait encore des inventions, où il y avait des découvertes scientifiques dans le monde de l'islam. Au-delà, après Ibn Khaldoun, c'est le déclin. Et Ibn Khaldoun a annoncé le déclin. Il a écrit pour décrire le déclin qui avait commencé de son temps. Lorsqu'au 18e, 19e siècle sont apparus en opposition au phénomène impérialiste, l'occupation, la colonisation, etc., des gens qui voulaient un peu réveiller ce monde musulman qui avait été colonisé avec beaucoup de facilité depuis les croisades, depuis les luttes. Voilà. Mais à l'époque, les Nahdawis pensaient que le problème était dans la façon de vivre l'islam par les musulmans. Jusqu'à un certain point, c'est ce que nous disons aussi de nos jours. Les musulmans sont responsables de l'islam. C'est parce qu'ils ont faim que l'islam est regardé par autrui. Par exemple, bon, l'islam en terre chiite, en Iran, il est devenu du chiisme, il est devenu de peut-être une certaine conception iranienne, un iranisme en quelque sorte. C'est l'ancienne Perse, la Perse éternelle, bien sûr, avec la prédominance islamique, mais néanmoins, bon, un peu c'est ça qui est à l'origine du conflit entre l'Iran et ses voisins, etc. Donc, à l'époque, les Nahdawis ne pouvaient pas reconnaître ou dire que le problème était dans le savoir religieux. Il n'était pas dans la phrase. Parce que l'homme musulman, d'une époque à une autre, reçoit l'islam par la tradition, par l'enseignement qu'il reçoit, par le mimétisme social. Il voit autour de lui, depuis qu'il naît, son papa qui va à la mosquée le vendredi, ce qui se dit à la mosquée, ce qui se lit, le peu de choses qui se lisent et tout. Donc, on héritait de l'islam. L'islam n'était pas assumé. L'islam n'a jamais été assumé par les musulmans postérieurs à la décadence. Il a été subi. Il continue d'être subi. Et aujourd'hui, on impose aux musulmans une vie, une conception de l'islam. On l'impose. C'est ce qu'on appelle le wahhabisme, le salafisme, etc. Il y a un conformisme. Il y a même, c'est devenu même un fétichisme. Aujourd'hui, pour être musulman, il faut s'estampiller le front. Il faut avoir une marque comme quoi on fait la prière. Il faut s'habiller d'une certaine façon. Et là, c'est de la régression sociologique, intellectuelle, anthropologique, sociologique. C'est un retour à l'animisme, au fétichisme. Donc aujourd'hui, ce qui doit être remis en cause, c'est l'héritage, notre héritage de l'islam. Nous avons hérité d'un islam qui est aujourd'hui en opposition avec le contenu du Coran. Quand on lit le Coran avec une certaine indépendance d'esprit, avec une intention bienveillante à l'égard de l'islam. Il ne s'agit pas de critiquer. Nous sommes les enfants de cet islam. Nous sommes les hommes de cet islam, les produits de cet islam. Mais cet islam-là, qui a subi la décadence, qui a accepté la décadence, le maraboutisme était une forme de coopération, de collaboration, comme disent les Français, avec le colonialisme. Aujourd'hui, le terrorisme est assumé par le savoir religieux. Même s'il se garde, bien sûr, de peur que les pouvoirs ne réagissent contre eux, mais on n'a pas vu un procès en bonne et due forme du terrorisme, de l'islamisme par les savants religieux. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils participent de la même, ils vont à la même mamelle. Ils prennent le lait à la même mamelle.
Sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, on parle de cette dernière chance pour l'islam avec le penseur et intellectuel Nordine Boukrour. Et nous évoquons à cette antenne les raisons de la réforme nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut réformer et comment réformer? Donc le modus operandi. Nordine Boukrour, vous avez dans votre développement parlé de ces crampes mentales, pour parler comme Wittgenstein. Il y a des crampes musculaires, mais là ce sont plutôt des crampes mentales. Vous avez parlé de cette sphère du sacré qui étouffe, qui grandit. D'aucuns parlent d'un sacré obèse qui ne laisse plus aucune respiration, qu'une autre forme d'activité. Comment se fait-il aussi que une civilisation impériale où il y avait place au raffinement, au désir, au plaisir, à l'émerveillement, à une vie qui flatte les sens, qui élève l'âme, du coup, il va y avoir ce savoir religieux qui finalement corsette le tout. Cette régression tragique, mentale, sociologique, anthropologique, à tout point de vue, est-elle inscrite comme ça, où il y a eu un faisceau de facteurs convergents qui a concouru à la dite stagnation puis régression?
Oui. L'étrange dans votre description, c'est-à-dire ça suscite quelque chose de... un constat étrange, c'est que la civilisation islamique, quels sont les lieux géographiques de la civilisation islamique? Parce que c'est ça votre allusion. Où est-ce que c'est répandu une certaine culture dont est fier l'islam, y compris l'islam wahhabite, quand il s'agit de falater l'islam, Allah, il se rappelle l'œuvre des Mu'tazilites, mais ils ne diront pas que c'est l'œuvre des Mu'tazilites, ils disent c'est l'œuvre de l'islam, c'est l'œuvre du ilm, etc. C'est faux, ce n'est pas l'œuvre du
ilm. Le ilm étant le savoir.
Le savoir religieux, voilà, proprement religieux. Donc, quand on voit les lieux de prospérité de la civilisation islamique, on les trouve d'abord en Irak, en Syrie, dans l'ancienne Sumer, dans l'ancienne Babylone. On les trouve dans l'ancienne Perse. Plus tard, en Europe, lorsque l'islam s'est déplacé en Europe, en Sicile, en Italie, en Espagne, et au-delà, dans certaines parties de l'Asie centrale, etc.
En transoxiale. Ouais.
Mais on ne trouve pas le moindre vestige de civilisation islamique, ni à Médine, ni à la Mecque. Pas dans les pays... Le Maghreb, à part quelques mosquées, qu'est-ce qu'on trouverait là-bas? Quelques qal'at, quelques comme ça, il y avait des endroits où avait prospéré un moment.
Et une qal'a étant une citadelle.
Voilà. Donc, il faut reconnaître que l'islam a surtout été porté par les peuples qui avaient appartenu déjà à d'anciennes civilisations. Quand on voit les noms associés aux grandes inventions, découvertes scientifiques et techniques, on voit bien qu'ils émanent pour l'essentiel, pour la plupart, de ces pays-là, d'anciennes civilisations. L'islam a trouvé refuge auprès de ces anciens peuples, et ils représentaient pour eux un surcroît de liberté, ils leur apportaient une dimension spirituelle, intellectuelle, que ne leur avaient pas donné leurs anciennes idées, leurs anciennes cultures. Tous nos jours, maintenant, c'est-à-dire l'incroyable, ça vous l'avez dit vous-même, c'est que, maintenant, il y a d'ailleurs quelqu'un, je ne sais plus qui est l'auteur de l'expression « l'ignorance sacrée ». On l'attribue parfois, les uns disent que c'est Arcon, d'autres...
Alors, la sainte ignorance est celle d'Olivier Roy, et l'ignorance sacrée comme traduction de l'arabe, le jahl al-muqaddas, est aussi à Arkoun. Enfin, en réalité, mais ça, vous reviendriez pour que nous en parlions, il y a une triple ignorance, l'ignorance sacrée, l'ignorance institutionnalisée, l'ignorance complexe. Certains ajoutent même une ignorance méthodologiquement programmée délibérément, mais là, on verse facilement dans le complotisme, on ne le dira pas aujourd'hui. Alors, je vous écoute.
C'est vrai, mais on vous a compris, monsieur. Voilà. Donc, le problème est qu'aujourd'hui, l'islam est l'otage. Un otage qui s'ignore. Il ne sait pas de qui. Pourquoi il est l'otage? Il y a des signifiants, des significations, les vérités de l'islam qui ont été prises en otage par le savoir. Et ce savoir religieux, il s'est incarné en une classe sociale qui est la classe des ulamas, qui entoure les pouvoirs, là où existent des pouvoirs musulmans, pseudo-musulmans, disons que le sabre, il y a une alliance un peu, comme on dit.
Ah oui, entre le sabre et le goupillon,
exactement,
comme disaient certains.
Voilà,
oui,
voilà. Je voulais le dire dans son acception arabe.
Le fameux pacte de Najd du milieu du XVIIIe siècle.
Voilà, et ça a commencé très tôt. D'ailleurs, pour revenir au prophète, pourquoi si la réforme n'était pas concevable d'un point de vue coranique et prophétique? Pourquoi aurait-il laissé cette grande sentence qui constitue déjà une soupape de sécurité pour l'islam à venir? Pourquoi le prophète a-t-il prédit que les musulmans se diviseraient en 70 sectes, 70 ou même 73 sectes, que les musulmans deviendraient un jour très nombreux en termes démographiques, mais qui ne signifieraient rien parmi les nations? Pourquoi ces prédictions apocalyptiques du prophète, si ce n'est pour montrer que, déjà de son temps, il sentait le malaise? Le malaise, par exemple, lorsque lui était malade, à l'article de la mort, et qu'on venait lui demander, ses plus proches, de désigner un successeur et qu'il s'y refusait. Les gens, par exemple, tablent beaucoup sur ce qu'a dit le prophète, mais ils n'ont pas analysé les silences du prophète. C'est un des silences capitaux. Alors qu'il y avait Ali, Abou Bakr, Omar, etc., et tous ceux qui étaient connus comme étant des inconditionnels, et lui refusait parce qu'il s'en tenait, lui, au verset selon lequel les affaires de la cité doivent être le fruit de décisions collectives. C'est ce que dit le Coran. C'est ça la Shura. C'est ça
un objet de consultation et de délibération.
Voilà, c'est ça le principe démocratique en islam était là. Mais très tôt, le bédouinisme, l'arabisme, parce que c'est une expression que j'utilise, c'est-à-dire l'islam a été arabisé.
Oui.
Le Coran a moins islamisé les Arabes que eux ne l'ont arabisé.
Et on veut canoniser un temps particulier et un mode de vie particulier. Et permettez-moi, Nordine Boukrou, de revenir sur le verset que vous avez cité, le verset 38 de la sourate 42, la sourate dite de la délibération. Est-ce qu'il est nécessaire de nos jours de s'y référer pour établir la démocratie ou même la déconnexion de la politique d'avec la religion? Parce que ce serait s'appuyer et s'arrimer à une référence scripturaire pour établir quelque chose qui n'en a pas besoin. Nous sommes dans un registre a-religieux, un paramètre extra-religieux, et la gestion des affaires de la cité n'a pas besoin de la caution du texte. Parce qu'on reproduirait, par la même occasion, ce dont on reproche aux fondamentalistes. Et j'ai l'occasion de rappeler, c'est qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. C'est la méthode elle-même qui est aussi à revoir. Donc ça, c'est une question. Et l'autre question, c'est, pour reprendre un terme dans votre ouvrage, la civilisation islamique étant naufragée, nous comprenons la nécessité de la réforme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut réformer? Le matériau même, j'allais dire, objet de réforme.
Oui, il est juste que on ne peut pas, d'un côté, se plaindre de l'emprise du ilm sur notre pensée.
Et dans en le même sens temps, que vous le dites, légitimer,
voilà.
Savoir religieux.
Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans ce livre, c'est que on commence par dire que on peut, tout en restant dans les clous du savoir religieux, trouver assez d'éléments pour justifier et réaliser la réforme. D'où, la référence au hadith et à certaines autres choses. Ce n'est pas une façon de légitimer l'islamisme, parce que l'islamisme, ce isme-là, c'est un suffixe d'hégémonisme. Quel que soit le terme auquel on accole ce isme-là, c'est pour dire qu'il n'y a que lui. C'est le isme de l'exclusivité.
Comme le marxisme et Marx.
Absolument. Donc l'islamisme, c'est penser, estimer que l'islam recouvre tout et que c'est à travers lui qu'il n'y a qu'à travers son prisme qu'on peut comprendre les choses, etc. Même ça, on peut l'opposer au ilm pour montrer l'obsolescence de ce ilm, c'est-à-dire la perte de toute validité.
Pour vous, toujours, le ilm étant le savoir religieux,
voilà,
obsolète, caduque, désuet.
Donc, ce qu'il faut réformer aujourd'hui, c'est tout simplement la vision du musulman, la vision du monde portée par le musulman. Le musulman est le seul aujourd'hui, parce que le monde actuel a plus ou moins à voir dans son organisation, dans sa culture, dans sa richesse, dans toute son histoire, il a à voir avec les religions. L'hindouisme est là, derrière l'Inde. Le judaïsme est là, derrière Israël. Le christianisme est là, derrière l'Occident. Et toutes ces nations, toutes ces civilisations se sont détachées de la suprématie, de l'hégémonisme de leur savoir religieux. Ils ont créé les conditions de développement de la pensée humaine. Parce que la pensée humaine, elle accompagne la pensée divine, même pour un croyant. Un croyant, Dieu est responsable de la création. C'est beaucoup la création. Avoir créé l'univers, c'est immense. L'homme a créé la civilisation. L'homme crée la civilisation. La civilisation humaine est une continuité de c'est-à-dire du caractère bienfaisant, parce que l'idée de Dieu est toujours assimilée à travers les notions de bien, de supérieur, de meilleur. On ne peut pas misérabiliser Dieu. Dieu ne peut pas se misérabiliser au point de... Dieu ne peut pas être réduit à la terre. Le savoir religieux musulman conçoit Dieu comme le Dieu de la terre, pas le Dieu de l'univers. Or, on a découvert entre-temps que l'univers se compose de centaines de milliards, de milliers, de milliards de terres, de planètes, etc. Et qu'il est incommensurable, il ne se mesure pas, il est en expansion, etc.
Et encore moins assisté de deux anges qui notent les bonnes actions d'un côté, les mauvaises de l'autre, voilà. Et qu'on culpabilise en infantilisant des esprits et des consciences, qu'on fragilise avec cette idée que si tu fais telle chose, bah, tu jouis des délices paradisiaques, et si tu fais telle autre chose, tu vas périr par le feu de l'enfer.
C'est l'infantilisme. Tout à l'heure, je parlais de fétichisme. C'est l'infantilisme. C'est l'enfant, c'est dans l'ignorance du savoir religieux. Nous sommes aujourd'hui victimes d'une ignorance qui nous était infligé à travers ce qu'on entend à la mosquée, à travers ce qu'on lit dans les tonnes de livres qui sont produits sur l'islam. Tout cela, c'est l'expression d'un infantilisme et d'un fétichisme qui sont en opposition avec le béaba de l'islam, avec les idées les plus élémentaires de l'islam. L'islam a été rabaissé. Les musulmans aiment dire Allahu Akbar, mais dans la réalité, ils font tout pour que Allah soit Allahu Asghar.
Asghar le tout. Plus petit.
Voilà. Donc, tout à l'heure, quand je disais que aujourd'hui, dans la coexistence des civilisations qui ont fait l'histoire humaine, il n'y a que l'islam, que le monde musulman qui dénote. Il dissonne. Parce que c'est lui qui a des problèmes chez lui. On voit le terrorisme, qu'est-ce qu'il a fait en Afghanistan, en Algérie, en Égypte, partout dans tous les pays musulmans. Et ce qui se passe aujourd'hui ailleurs, là où existent des communautés islamiques. Voilà le problème, donc, c'est que les musulmans sentent qu'ils ont un problème avec leur islam. Ils ont des réactions parfois infantiles. C'est assumer le croix, assumer l'islam, en s'habillant d'une certaine façon pour mieux offusquer les autres. On ne s'affirme pas en offusquant. On s'affirme. Normalement, moi, quand je vois certaines manifestations islamiques, maintenant, c'est devenu des souks. On voit le hijab, les différentes formes, les lignes, le style, etc. Et tout, comment être musulman, c'est du fétichisme. Pourquoi n'y a-t-il pas des congrès de science? Pourquoi l'islam ne s'attache-t-il pas, ne s'associe-t-il pas à des manifestations où on voit des découvertes technologiques, où on voit des œuvres de production de l'esprit? Pourquoi l'islam est sur la défensive à travers une façon d'être qui relève de la provocation, derrière laquelle il n'y a ni bon sens et encore moins de vérité?
Les accoutrements, ces mauvais comportements n'ont comme conséquence que le fait de se séparer du groupe, notamment quand on est en Europe, et je parle des sociétés sécularisées, ça défie le bon sens et ce n'est pas un gage d'une volonté d'asseoir les fondations d'une société commune dans laquelle le citoyen ou la citoyenne appartenant à la tradition religieuse islamique y contribue. Je vous ai interrompu, Nordine Boukrou, mais dans cette série des choses qu'il faut réformer, il y a la notion de religion, il y a l'idée même de la raison d'être de l'homme, il y a la Weltanschauung, si je devais parler allemand, la vision du monde issue de cette conception religieuse islamique. Et vous avez commencé à parler du concept de Dieu, et je finis par deux autres approches. La vision du Coran dont vous dites qu'il faudrait le replacer à l'endroit, parce qu'il n'est pas dans son ordre chronologique. Et dernier point, c'est l'éducation à l'altérité, et notamment l'altérité confessionnelle ou les autres appartenances métaphysiques, c'est-à-dire le rapport aux autres.
Exactement, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre de M. Saïd Baranine et moi-même. On a essayé de définir les secteurs réels de la vie où la réforme doit s'opérer et où elle doit opérer des transformations et produire des résultats qui vont apparaître dans les comportements des musulmans. On doit changer notre vision de Dieu, qui a été rapetissée par le savoir religieux. Il faut le détacher de l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu n'a pas besoin des hommes de religion. Il n'a pas besoin qu'on exerce la peur en son nom. Il n'a pas besoin de terrifier. L'entité qui a créé l'univers ne peut pas avoir besoin de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que 7 milliards d'hommes dans l'univers? Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, dans les autres systèmes, les autres galaxies? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a d'autres formes de vie. Peut-être qu'on aura un jour à les connaître. Peut-être que le monde est promis à des découvertes pas spectaculaires. Il n'y a pas de mots pour les qualifier. Mais c'est sûr que Dieu, si c'est lui qui a fait tout ça, il ne peut pas n'avoir fait que les 7 milliards d'êtres humains. Ça n'est pas possible. Donc, notre ignorance de ce qu'est Dieu est plus grande que notre connaissance de ce qu'est Dieu. Donc, il faut réviser notre notion de Dieu et revoir à la hausse la définition de Dieu. Pas les petits attributs comptabilisés. Bon, voilà, Dieu a besoin que chaque seconde, il faut dire comme ça, qu'on a peur de lui montrer que... Tout ça, c'est de l'enfantillage. On a parlé donc de la notion de Dieu. Il y a la notion de raison d'être de l'homme sur la terre. Parce que ça, bon voilà, le musulman apprend comme ça, dès son enfance, qu'il a été conçu, il est là sur la terre pour adorer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? En quoi Dieu a-t-il besoin qu'on l'adore, nous? Dieu est-il, je ne sais pas, dépendant de cette nécessité? Lui-même a-t-il conçu tout ça pour que quelqu'un, un pauvre diable d'être humain, le reconnaisse? Pourquoi
ce que d'aucuns appellent le narcissisme divin, et ça n'a aucun sens, il n'en a pas besoin.
Donc cette notion de raison d'être, il y a assez d'éléments dans le Coran pour trouver qu'elle correspond à autre chose. On en a beaucoup parlé dans le livre. Il y a la notion d'altérité, comme vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire le musulman, comment il conçoit les autres? Ne voir dans les autres que des koufars voués à alimenter le brasier.
Enfin, les mécréants.
Voilà, les mécréants, etc. Ça, c'est une vision qui n'a plus de sens. Elle n'avait pas de sens à l'origine déjà. Dans le Coran, elle ne l'avait pas. Et là, ça nous ramène le quatrième point à notre notion du Coran. Là aussi, il faut revoir notre notion du Coran en lisant le Coran avec les connaissances de notre temps. Pas avec les connaissances du temps d'Abu Huraira. Abu Huraira n'avait que ça. Et c'est un grand mérite ce qu'il a fait compte tenu de ce qu'il avait, presque rien. Aujourd'hui, le musulman...
Bien que dans ce cas précis, et pour lui, il n'a rapporté, dit-il, que les 3 dernières années de ce que le prophète avait proposé, en les amplifiant à 5000 propos, 5000 aphorismes, oui. Et puis il en aurait profité, j'utilise le conditionnel, pour être nommé gouverneur de Médine par le dynaste Mouawiya, le premier dynaste des Omeyyades.
Absolument. Cet homme-là est un des plus grands pourvoyeurs avec Ibn Abbas, des deux hadiths, etc. C'était des enfants à l'époque du prophète. Abu Huraira était une espèce de SDF comme ça à l'époque, que le prophète avait recueilli comme ça chez lui.
Puisqu'on ne connaît pas sa filiation, mais
voilà,
nous n'allons pas nous attarder sur lui.
Son histoire, elle est, mais voilà. Bon. Il faut désacraliser ces choses-là. Parce que quand on voit, par exemple, les gens qui voient le film Le Message, tout le monde aime ce film parce que, disons, c'est vraiment le film mythique de l'islam et qui est authentique. D'ailleurs, malheureusement, son réalisateur est mort dans un attentat à Amman, en Jordanie. Un malencontreux attentat, par hasard. Il n'était même pas visé personnellement. Quand on voit ce film-là, donc, on voit un peu la vie de l'époque, comment que les gens... À part ce qu'a ajouté le ilm, même le fait de ne pas montrer le visage des compagnons du prophète, tout ça, c'est de la mythologie. Tout ça, c'est des choses qui ont été surajoutées à l'islam. Le prophète n'a pas vécu sa personne comme sa personne a été présentée par le savoir religieux qu'il a. Et moi, je pourrais aller plus loin, on pourrait même s'interroger pourquoi associer le nom du prophète à celui d'Allah. Dans la shahada, qui est l'acte fondamental, le premier
parce
pilier,
ça n'y était pas
c'est
avant,
la shahada, ça n'y était pas. Et tout le Coran, à travers des centaines peut-être de versets, interdit que quoi que ce soit associé au nom. Et pourtant, ça a été fait mais après la mort du prophète. Le prophète, bien sûr, de son temps, demandait à être reconnu comme prophète. Bien sûr, mais ce n'était pas pour que ça devienne une attestation de foi. Parce qu'il était en mission, il était en exercice, il se concevait comme un envoyé qui avait un message à transmettre, et que transmettre un message? Il n'a été responsable que de cela. Il l'a défait Khotbatul Wada', son dernière adresse aux musulmans.
Voilà. Non, oui, simplement, non, c'était pour traduire Khutbat al-Wada', c'était comme le serment, le prône de l'adieu, et dans lequel il disait j'ai transmis.
Soyez témoins. Voilà, il leur a dit soyez témoins. Ils ont témoigné du contraire. Ils ont témoigné du contraire, ils l'ont divinisé. Et lui, il ne demandait pas cela.
en disant « je ne suis qu'un mortel parmi les mortels ».
Voilà, donc le dernier point pour la référence, si vous permettez, M. Oral.
Non, mais je vous en prie.
Pour le Coran. Le Coran, justement, c'est quelque chose d'unique. Parce que tellement aujourd'hui, quand vous dites à un musulman, 90% des musulmans ne savent pas que le Coran n'est pas dans l'ordre de sa révélation. Dès le fait de le dire fait de vous quelqu'un qui est attente à l'islam et au Coran. Mais bon sang de mon Dieu, tout le monde le sait. Il n'y a pas un alim sur la terre qui ne le sache pas. Maintenant, il faut savoir pourquoi il a été mis dans le désordre. Pourquoi ? Bon, on nous dit, le ilm al-qadim, le savoir religieux, nous dit que c'était pour que les sourates les plus longues soient mises en premier pour faciliter. D'abord, c'est faux. Même le Coran n'est pas classé dans l'ordre de la plus grande en termes de contenu de
ce n'est pas en ordre décroissant.
Voilà, l'ordre décroissant n'est pas respecté, premièrement. Deuxièmement, quand on fait une telle chose, ça ne peut pas être le fait ni d'un prophète, ni d'un dieu, que de mettre en désordre quelque chose qui a été révélé pendant 23 ans, parce que la révélation ne s'est pas faite d'un coup. Elle ne s'est pas faite d'un coup, elle s'est étalée sur 23 ans. Et le dernier verset date de 2 à 3 mois avant le décès du prophète. Et c'est là, par exemple, qu'on trouve, fait sorte Tauba, que, par exemple,
la sourate du repentir.
Voilà, que les ablutions, par exemple, sont définies dans un verset de cette sourate qui a été révélée dans la 23e année de la révélation. Et c'est là, on peut se demander, comment faisaient les musulmans pendant 23 ans, puisque les ablutions n'avaient pas encore été définies. Et il en est, ça, ce n'est qu'un exemple. Lorsqu'on veut rétablir les prescriptions islamiques dans l'ordre de leur édiction, à quelle époque elles ont été édictées, les prescriptions, soit dans le sens d'interdire ou d'imposer, là, il y a un ordre, il y a quelque chose qui... Et ça, on ne peut le savoir qu'en lisant le Coran dans l'ordre chronologique, dans l'ordre où il a été révélé. On s'aperçoit que du côté secondaire de beaucoup de choses qu'on croit essentielles. Donc, relire aujourd'hui, c'est-à-dire réfléchir sur le Coran dans l'ordre où il a été révélé, ouvre une perspective considérable. C'est par là que peut s'engouffrer justement le travail de pensée de réforme.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'intellectuel et penseur Nordine Boukro et nous parlons du contenu de son dernier ouvrage sous forme d'entretien avec Saïd Branin, intitulé « L'islam, la dernière chance » et nous passons en revue le triptyque « La nécessité même de la réforme, qu'est-ce qu'il faut réformer, comment réformer » et peut-être dans cette dernière partie, si vous en êtes d'accord, Nordine Boukro, nous parlerons du modus operandi, c'est-à-dire comment réformer. Il y a le fait de remettre à l'endroit le Coran, c'est paraît d'une impérieuse nécessité. Il y a aussi le repenser l'histoire, voir l'histoire comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de cultures et de pensées, mais aussi comme une archéologie du temps présent. C'est une des définitions de l'histoire, donc ce rapport à l'histoire. Il y a aussi ce savoir religieux que vous avez évoqué à quelques reprises et le renouveler en lui insufflant les données de la batterie de discipline des SHS, les sciences de l'homme et de la société, herméneutique, exégèse moderne, philologie, linguistique, médiologie, sémiotique, codicologie, paléographie et d'autres aussi, on en a besoin. et peut-être aussi, bien entendu, renoncer à la fiction islamiste qui a causé beaucoup de tort. Et dernier point, élargir l'horizon au monde.
Absolument. Cette réforme-là, quand on la décline en actes à accomplir, elle doit viser d'abord l'histoire de l'islam, l'histoire du Coran, l'histoire du monde musulman, etc. L'histoire du ilm, l'histoire, la vraie histoire, la biographie, les gens qui sont derrière. Parce que le savoir religieux, il a posé beaucoup de cadenas autour de tout le monde de l'islam, le monde des idées de l'islam, les références, le contenu du Coran, les hadiths vrais, peu vrais, faux, etc. Tout ce monde-là doit être revu grâce aux disciplines que vous avez citées aujourd'hui, parce que les connaissances que nous avons aujourd'hui, l'avantage dont nous avons l'avantage de profiter, nous permettent de réaliser des découvertes meilleures, connaître le sens de l'islam. Le sens du Coran, parce qu'il faut revenir à la source, c'est le Coran. Et le Coran doit, pour permettre ce sursaut, permettre cette résurgence de l'esprit, de la pensée islamique, parce que la pensée islamique a été phagocytée, elle a été assassinée. Il n'y en a plus jamais eu après l'époque de Mu'tazila, c'était fini. Ibn Khaldun le disait avec beaucoup de et beaucoup d'autres après lui.
Est-ce que je peux citer de mémoire quelque chose que vous avez mis dans votre ouvrage, ce fameux passage connu désormais de tous dans les Prolégomènes, tome 2, quand il a écrit en 1377, et la page toujours de mémoire est de 757, quand il disait, lorsque le vent de la civilisation eut cessé de souffler sur l'Andalousie et le Maghreb, et lorsque le dépérissement des connaissances eut suivi celui de la civilisation et les sciences disparurent, on n'en trouve que quelques notions chez de rares individus qui doivent se dérober à la surveillance des gardiens de la foi orthodoxe.
Absolument, les gardiens du temple et les marchands du temple. Et, disons, les détenteurs du pouvoir qui ont aujourd'hui le trésor et le temple. Voilà, parce qu'on voit un monarque acheter ici une maison à 600 millions d'euros aux États-Unis, je ne sais pas quoi. Les ulamas se taisent là-dessus, ils ne disent rien. Ils ne disent rien là-dessus. Par contre, ils sont prompts à vouloir amputer la main à quelqu'un qui aurait volé une pomme, pour rester dans l'esprit de la culture française. On pense au Misérable de Victor Hugo. Donc, l'islam, pourquoi ce titre de dernière chance? Parce que c'est vraiment la dernière chance. La dernière chance, ce n'est pas qu'il y a un ultimatum, une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Non, l'état du monde l'indique. L'hindouisme est aujourd'hui à pour phare l'Inde. L'Inde est une puissance aujourd'hui, économique, scientifique, informatique, bien sûr nucléaire. La Chine, qui, elle, se prévaut d'une religion, parce que le bouddhisme est une réforme de l'hindouisme. L'islam aujourd'hui doit aussi se réformer, lui aussi. D'ailleurs, l'islam est une réforme des autres religions monothéistes. Il est venu, et l'islam. L'islam, d'abord, l'islam, nous croyons qu'il est apparu il y a 14 siècles. Le Coran dit de l'islam qu'il est apparu avec Abraham, avec Ibrahim, Khalil. C'était lui le premier musulman. L'islam était donc dans la symbolique abrahamique.
Dans son sens spirituel et étymologique, se remettre
voilà.
À Dieu.
Mais cette symbolique d'Abraham, parce que quand on voit comment est présenté Abraham dans les évangiles, Abraham dans l'Ancien Testament, Ibrahim dans le Coran. Je travaille là-dessus, j'ai un travail que je mène actuellement sur cette symbolique abrahamique et je me dis cet homme-là finalement, qui était voué, qui, selon le Coran, à être le père des nations. Et cette qualité, on la retrouve aussi, cette qualification, on la retrouve dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Il est qualifié de tel. Alors que c'est un homme qui n'a pas institué une religion. Et c'est un acte de foi qu'il a eu lui. Il a cru en Dieu en vertu d'un processus rationnel. Il a discuté avec Dieu. Dieu lui a dit, est-ce qu'il ne te suffit pas de croire? Il lui a dit non, je veux avoir la preuve. Et Dieu a opéré, il lui a donné un exemple de preuve. Donc cet Abraham-là, ce qui est pour nous musulmans, le premier musulman, mais cet homme-là n'a pas laissé un livre. Sauf Ibrahim, on ne sait pas ce que c'est.
Les feuillets d'Abraham.
Aujourd'hui, les découvertes, les recherches montrent que ce sont les Védas. Un des quatre Védas qui est le livre d'Abraham. Abraham n'avait pas de peuple, il a abdiqué, il est parti de sa famille, de sa tribu, un homme sans livre. Il n'a pas laissé une religion, il n'était pas un chef militaire, il n'était pas un conquérant. Et l'islam pourtant se reconnaît en cet homme-là. Il n'a pas laissé d'hérite. Quels sont les rites laissés par Abraham? Est-ce qu'il nous a laissé une façon de jeûner ou de prier ou de... On lui doit, on lui impute la construction du temple de la Mecque, etc., Maqam Ibrahim. Mais tout cela, voyons un peu, quand on dit Abraham, il est en meilleure estime auprès de Dieu que n'importe quel autre prophète, y compris le nôtre.
Il est
dans une relation hiérarchique. Abraham est posé au plus proche. Il est qualifié d'ami de Dieu.
Habibullah. Oui.
Qualité que n'ont pas les autres prophètes. Oui. Donc, si l'islam, c'est cela, pourquoi lui avoir adjoint toutes ces complications? Si l'islam révélé par le prophète était un rappel, le Coran, quel est le mot Coran signifie récitation. Récitation de quoi? Le Coran se définit comme un rappel. Rappel de quoi? Des anciennes écritures, des anciens messages. Et ces messages-là tiennent en quoi? Puisque le christianisme, le judaïsme se prévalent d'Abraham, de l'antériorité d'Abraham et nous aussi. Donc, pourquoi est-ce que ces rameaux du monothéisme, on les appelle bienveillamment les rameaux, ils sont des frères ennemis. Ce sont des ennemis. Ils ont été ennemis.
Alors, comment faire pour qu'il y ait réconciliation, puisqu'il nous reste une minute, et avoir une vision du monde, pas dans les niaiseries d'un vivre ensemble comme ça, mais jeter les bases et la fondation d'une société humaine solidaire, fraternelle, prospère pour tous, avec l'intelligence du cœur et de l'esprit pour que ces rameaux d'un même monothéisme puissent témoigner au reste du monde de l'accueil, de l'hospitalité, de la générosité, de la sollicitude, de la prise en compte de l'intérêt d'autrui.
Moi, ma foi profonde est que c'est la réforme de l'islam qui va permettre cette éthique universelle. Parce que lui, il était là. C'est là, lui, il se prévaut. C'est l'oméga de l'alpha. L'alpha étant Abraham. Ibrahim. Le prophète, c'est le dernier prophète. Le dernier. Donc, ils sont là, le début et la fin. Je crois que si l'islam réussit sa réforme, c'est-à-dire réassume sa véritable nature abrahamique, là, l'islam constituerait, offrirait une éthique universelle. Pas une éthique religieuse. Pas, parce que l'islam, il était une éthique, on en a fait une religion. Il a été une civilisation, on en a fait un rite. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un rite fétichiste.
Promettez-nous une chose, c'est que vous reviendriez pour poursuivre le reste, surtout avec ces derniers propos, le fait d'être interpellé, par exemple, par la foi bahaï, maintenant, pour les musulmans, etc., la question de liberté de conscience, la question de l'égalité fondamentale des êtres, par-delà le genre, par-delà les options métaphysiques, la question de la désacralisation de la violence, mettre fin au mythe de l'islamisme, notamment l'islamisme politique, etc. Chers amis auditeurs, c'était Question d'islam sur France Culture. Nous étions avec Nourdine Boukrou, intellectuel et penseur algérien, pour parler de la réforme, avec un titre parlant, « La dernière chance », un livre entretien avec Saïd Branine. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Chatelus et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. وين راكم يا ولدي من وحش لحباب هاجوا فكاري وفرقوا بطال عليا كي نتفكروا بتشعل ناري وين راكم يا تغربت عليكم وخليت داري ودموعي سايلة قوية
جرحات خدودي وبصاري يا ربي يا علي حن علي j'aime toutes les villes un peu plus Paris la qu'il m'a chier comme l'Algérie comme elle est belle ونحبها في لهبة فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك أولا بلانش قلبي بلان دو تريستيس ما ينساكش ان روفانش Oui, tu places du gouvernement Ma'amra b'hababi L'un koun gharibi Plein de tourments Rire ne t'fakar ha Je souris J'aime toutes les villes Un peu plus Paris Je veux qu'il mâche Comme l'Algérie Comme elle est belle نحبها في الهبال فين نكون ما ننساها الجي الجي شحال نحبها كوما فوليفو انا ما نحبها دون سون سانك بروي ما وبابا دو سون سولاي جو نو بوي مو باسي Depuis mon enfance, une jury dans ces rues sans me lasser. Qalbi, qalbi, en été pris, j'aime toutes les villes, un peu plus Paris. La Kinmachi, comme l'Algérie, comme elle est belle, on habha flahba. Du monde mal farha Algi, Algi, j'hal l'hama Beaucoup de jeunes gens y rouhou il a regrette Wahad idoua sous la khour khalla waldeh d'un coup de tête Kif ikounou b'aidi y'arfou l'qima Où es-tu mon père وين راك يا يما Mon cœur vous appelle, il est meurtri J'aime toutes les villes, un peu plus Paris La Kinmachi comme l'Algérie Comme elle est belle ونحبها في الهبال L'or du monde m'en fait Algi, Algi, j'ai